le monde, et qui n'est bien sûr pas Kadosh Baruch Hu, par Dieu, mais Dieu utilise pour guider le monde deux voies principales. Une s'appelle Din, l'autre s'appelle Chesed. Din, c'est la rigueur. Chesed, c'est la bienfaisance. Une bienfaisance qui est illimitée. Alors, il n'y aura plus de monde. Parce que la lumière de Dieu s'épancherait, son infini, l'infini rentrerait dans le fini, il n'y aurait plus de fini. Pour qu'il y ait un fini, il faut qu'il y ait une rigueur, un arrêt. Donc, s'il n'y avait que de la rigueur, aucun de nous pourrait survivre. Parce que la rigueur de Dieu, elle est totale. C'est-à-dire, c'est la moindre petite erreur, tu disparais. Donc Dieu fait un mélange de rigueur et de bienfaisance. On parlait en juif de chesed et de din. Nous aussi, dans notre personnalité, dans notre comportement, nous avons ces deux tendances. La tendance de din, c'est une justice. Tu as un enfant, tu l'aimes, tu demandes une glace, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième, une septième. Au bout d'un moment, tu diras non. Pourquoi tu diras non? Lui, maintenant, il se met à pleurer toutes les larmes de son corps. Papa, maman, il te fait bisous, papa, il te monte dessus, tout ce que tu veux imaginer pour essayer de te... Tu vas refuser comment tu vas refuser, parce que tu vas développer en toi, tu vas faire apparaître l'amida, cette qualité qu'on a de din, de non, il y a une limite, il y a une justice, on ne peut pas trop. C'est motivé pour des bonnes raisons, tu ne vas pas le faire tomber malade. Si maintenant je donne sans cesse, je tue mon fils. Donc, mais lui maintenant, il tapate au niveau des sentiments. Alors, comment tu peux résister aux sentiments? Tu utilises maintenant l'amida de din. Si maintenant tu es que din, jamais de glace à la maison, jamais une boisson sucrée, pas de coca, l'eau plate, le pain sec. Et quand on est gentil avec un peu de sel, parce qu'il faut vivre à la dure, sinon on ne sait jamais ce qui se passe dans la vie, tu as tué aussi ton fils. Il faut savoir mêler du chesed avec du din. Le din, quelqu'un qui va utiliser le din, exacerbé au point ultime, c'est l'assassinat. Din signifie retenir. Je retiens le chesed, je retiens le don vers l'autre. Je retiens tellement que je ne donne aucune existence à l'autre. Je suis prêt à le tuer pour moi. Din, c'est vers soi. Retenir. C'est la cruauté. Cruauté en hébreu, se dit en hébreu, achzar. Achzar signifie que étranger. Je suis étranger à l'appel. Quelqu'un veut réveiller en moi la miséricorde, l'appel, j'ai besoin de ton aide, sois bon avec moi. Quelqu'un qui est digne, il retient. Ça peut arriver à l'assassinat. Quelqu'un qui est chesed, illimité, sans digne, ça devient la débauche. L'amour, peace and love, love and peace, love, on s'aime tous ensemble, et voilà, c'est le grand n'importe quoi. Alors, nous devons avoir absolument chez nous aussi une bonne mesure d'union des deux. Attends, cette union de din et de chesed peut être, si elle est faite vraiment comme il se doit, par la raison et comme il faut, c'est le secret de la kedusha, c'est le secret de la sainteté, comment arriver à la sainteté. Mais si on ne le fait pas comme il faut, on est menteur un peu, ça mène à touma, ça mène à pureté. Comment? Quelqu'un, par exemple, qui est très din. C'est un homme cruel. Il n'aime pas donner aux gens. Bon, il a quand même une certaine conscience, mauvaise conscience. Et bon, je vais quand même, il donne un peu de tzedaka de temps en temps, un petit sou comme ça de tzedaka, il fait des sourires de temps en temps aux gens. Il fait quelques petites BA autour de lui, se disant, voilà, je suis un type bien. En fait, c'est un type pourri. Il est égoïste. Il pense qu'à lui, digne, dur. Mais, vu qu'il faut vivre avec les gens, il ne veut pas se faire une mauvaise réputation, donc il ajoute devant les gens que chesed, il fait du chesed. Mais c'est un chesed de comédie. Il y a un mélange de digne et chesed, mais c'est un digne habillé, déguisé en chesed. Quelqu'un qui est très dans le chesed, c'est un grand débauché. Maintenant, il vit en société. Il a mauvaise conscience. Il ne veut pas qu'on dise sur lui des choses qui ne sont pas bien. Alors, extérieurement, travail, gentleman, c'est un type bien, digne comme il faut. Mais chez lui à la maison, la grande débauche. Ou dans la bouffe, ou autre chose, ou sur Internet, d'accord. Quelqu'un peut, toute la ta'ava, toute l'envie, le désir, tout ce qui est les plaisirs de ce monde-là, ça c'est quelqu'un qui est dans le chesed. Mais il ajoute maintenant, non, je suis un type bien, je suis un type honnête qui a un bon équilibre. De nouveau, c'est un menteur. C'est un débauché déguisé en non-débauché. L'origine dans l'humanité de ces deux grands axes de Chesed et de Din, c'est Cain et Hevel. Cain et Abel en français. Cain et Hevel. Cain, c'est le Din. C'est celui qui va, pour finir, tuer son frère, Hevel. Hevel, c'est le Chesed. Mais les deux ont eu une relation entre eux, c'est-à-dire une union de Chesed et de Din qui était déséquilibré, qui finit par l'assassinat. Hevel amène un sacrifice à Dieu, un sacrifice de... Il amène des moutons, sacrifice animal. Caïn amène, lui travaille la terre, il amène produit de la terre. Chazal on dit, qu'est-ce qu'il a amené? Des graines de lin. Dieu reçoit le sacrifice de Hevel, parce qu'il est chesed, il a une proximité un peu plus grande vers Dieu, et Caïn, qui est un grand orgueilleux, égoïste, et c'est marqué que l'orgueilleux, parce que Dieu dit, lui et moi ne pouvons pas habiter dans ce monde. Orgueilleux, c'est-à-dire que je remplis la place, il y a moi, il n'y a que moi, donc il n'y a pas place pour l'autre. C'est marqué qu'il repousse les pieds de la Shrina. La Shrina, la présence divine, elle descend dans ce monde. On imagine, on l'image avec des pieds, d'accord? Quelqu'un qui est orgueilleux, il repousse les pieds. Il n'y a pas de place pour toi, Dieu. Il y a moi. Moi, moi et rien que moi. Donc, Dieu reçoit le sacrifice de Hevel, mais pas de Caïn. Vu qu'ils sont en relation entre eux, une relation mauvaise, vient la jalousie. Caïn, Kin'a, c'est la jalousie. Il commence à regarder pourquoi Hevel, son sacrifice était reçu, et moi pas. Et il tombe en déprime. Et Dieu lui dit, pourquoi tu es en déprime? Ne regarde pas l'autre. Fais ton job qu'il me faut bien, comme il faut. Sois droit, tu reçois tout ce qu'il faut. J'ai souvent répété cela, les paroles de Orachem HaKadosh sur place. Il dit que Dieu a expliqué à Caïn, Hakdusha, Lotzricha, Lacherim. La sainteté n'a pas besoin des autres. La sainteté, c'est notre réussite, c'est notre vie. C'est ça la sainteté, la proximité de Dieu, c'est aller dans la bonne voie. Réussir. Pour réussir, c'est jamais en fonction par rapport aux autres. Parce que j'ai un job, j'ai une âme, j'ai des outils qui n'ont rien à voir avec les autres. Quelqu'un réussit mieux que moi, mais on n'est pas en concurrence. Parce que lui, avec ses outils, il peut-être réussit beaucoup moins que moi avec mes outils. Dieu regarde relativement à chacun. On n'est pas du tout concurrentiel. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de concurrence. C'est complètement faux. Caïn s'est mis en union. C'est quoi la concurrence? C'est... Je suis dans une union avec une union négative. Si moi je suis de mon côté toi du tien, tu réussis, je suis très content pour toi, bravo. Je réussis mieux que toi, je ne suis pas bénéficiaire que ça parce que j'ai réussi mieux que toi, parce qu'on n'est pas, la jalousie est la production d'une union. C'est l'union entre les deux, la relativité, je suis relatif à toi, je en relation, comment ça se passe chez toi, je regarde, tac, 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 je relation. Ça crée la jalousie qui a amené l'assassinat. On a dans la Torah une mitzvah extrêmement importante, extrêmement grave, qu'on peut dire à son propos presque Zichrona Levracha, de mémoire bénie, parce que tellement, même dans le monde religieux orthodoxe, il y a des écarts, il y a des lacunes. Ça s'appelle le chatnez. Chatnez, c'est quoi? L'interdiction de porter un habit dans lequel il y a une union entre l'un et l'aine. Une union par couture, une union par col, n'importe quelle union. Même tu as un petit fil minuscule de l'un dans un habit de laine, ou au contraire, un habit de lin, un habit de laine, et dedans tu as un minuscule petit fil de lin, c'est ce que je dis, les deux contraires. Tout l'habit devient interdit. Et chaque fois qu'on le porte, on transgresse un interdit de la Torah, comme manger du porc. C'est pas chaque fois qu'on le porte pendant une heure, on a fait un interdit. Chaque fois que passe le temps, le laps de temps que ça prend de mettre l'habit, on a transgressé un interdit. De l'enlever, un autre interdit. De le mettre, un autre interdit. De l'enlever, un... pendant une heure, combien de fois tu as transgressé?
Une heure.
Combien de fois tu as transgressé en une heure? Des centaines de fois. Combien de fois tu prends de mettre une jaquette? Quelques secondes. C'est marqué que cette loi est un choc. C'est-à-dire qu'au niveau rationnel, il n'y a pas de logique aux choses. Mais néanmoins, dans les livres de mystiques juifs, il parle. Cette union de quoi? Pourquoi elle est tellement interdite? Parce que c'est une union, en fait, de ces deux axes. Caïn, il a amené du lin. Hevel, il a amené des moutons, de la laine. Quand il y a une union qui est hors Kedusha, pas autorisée par Dieu, qui n'est pas comme il se doit, de ces deux axes, ça provoque l'assassinat. Shatnez, c'est marqué dans la livre de mystique juive, c'est l'union des lettres Satan, Az. Le mot que je dis le premier, sat, d'accord, c'est même pas bien de le dire jamais. En plus, la nuit, c'est pas bien, mais je voulais le dire quand même pour que vous sachiez. L'union de ces deux mots, c'est le premier, bon, je le répète, Satan, d'accord, c'est le mal. Az, puissant, effronté, insolent, puissant. Lorsqu'on unit ces deux entités ensemble, alors on provoque, le Zohar est dit comme ça, qu'on réveille. Le souffle de l'assassinat, l'assassinat originel qu'il y a eu dans l'histoire, où, comme je dis toujours, c'est quoi la première guerre mondiale du monde, dans laquelle un quart de l'humanité a péri. Première guerre mondiale, c'est quand Caïn qui a tué Hevel, un quart du monde qui est mort, assassiné, alors que c'est des personnes, Caïn et Hevel, Dieu leur parle, c'est des niveaux énormes. Tu peux assassiner par jalousie. Ça crée une réalité de mal dans le monde terrible. C'est le mal. T'as pas pire que ça. Tout le monde est d'accord qu'assassiner, c'est la pire des choses qu'il puisse y avoir. Celui qui s'habille avec un habit qui est pareil, ce matin dans le soir, il s'enveloppe de rouar, de ce souffle, de tout mal, d'impureté, de l'assassinat. Et c'est marqué que c'est l'habit du Satan. L'habit du mal. Je crois que c'est marqué dans les livres. Le Radbaz dit comme ça il y a 500 ans. On a l'alakha que je vous lis maintenant. Dans le Shulchan Aruch. Ce n'est pas un livre de Moussa, c'est un livre de Halakha. Siman Shin Gimel. C'est dans Yoredea, tome Yoredea, chapitre 303. Aroi Kilaim, c'est le Torah Al-Khaber. Celui qui voit un Kilaim. Donc Kilaim, c'est une union de lin et de laine qui est interdite par la Torah sur son prochain. Afiloya Melach Bashuk. Même si ce prochain se baladait dans le marché. Kofetzlo. Il lui saute dessus. Ce n'est pas un livre de Moussar, c'est un livre de Halakha. Il faut lui sauter dessus. Et le déchire de sur lui. Miyad, immédiatement. Vafilou et Arabo, même si c'était son rave. Ton rave est tout nu en culotte dans le marché. C'est la culotte, elle cache, c'est le pas cacher la culotte. Alors la culotte aussi, on la déchire. C'est Shulchan Aruch, mon cher ami. Shulchan. Ah. Hein? Attends, excuse-moi. Tu me dis façon de dire. Shulchan Aruch, il dit très bien. Attends, restons calmes. Pourquoi je t'explique tout cela? Je te dis maintenant, et le Radbaz explique. Pourquoi est-ce qu'on a le droit de sauter comme ça sur quelqu'un, même son rave, et déchirer l'habit de Kilaim qu'il porte? Parce que l'habit du Satan, c'est ça. Donc quelqu'un qui habille avec même mon rave, qui habille avec l'habit du mal, le habit du mal, eh ben, c'est une grande mission que je fais de sauver. C'est tout. Alaha. Alaha continue. Il dit, s'il portait un kilaim, un chatnes des rabbanan, on verra qu'il y a certains chatnes des rabbanan. Alors, dans ce cas-là, on peut le laisser avec ça. Il faut vite le prendre de côté. Il peut aller chez lui à la maison. Chez lui à la maison, il change d'habit. Parce qu'on a une loi qui dit que l'abriot, l'honneur des personnes. On peut laisser quelqu'un faire un péché pour son honneur, mais à condition que ce soit un péché des rabbanan. C'est un péché de la Torah, c'est marqué aucun kavod. Il n'y a pas de kavod par rapport au kavod de Dieu. Donc, messieurs, on apprend une chose terrible. Que lorsqu'on porte un habit qui a même une petite couture qui n'est pas comme il se doit de lin ou de laine, dans un habit de lin ou de laine, alors c'est terrible. Et je peux vous dire d'expérience. On a eu un cours dernièrement, donc il va apparaître sur le site aussi. On voit que c'est terrible. Il y en a partout. J'ai demandé à un expert, je lui ai montré ce costume-là. Je lui ai dit, dites-moi, est-ce que ça, je dois vérifier? Moi, j'ai au magasin, ils m'ont dit, il n'y a aucun problème de chatness. Maintenant, là, la khadi, c'est un habit qui est fait de laine ou qui est fait de lin. Alors, il faut le vérifier, obligatoire. C'est un habit qui est au milieu de polyester, ce n'est pas obligatoire, c'est juste bien. Mais si c'est un habit qui est entièrement de laine, enfin, de laine, il y a de la laine dedans, ou du lin, on a peur que dans la laine, il y a aussi un peu de lin, ou dans le lin, il y a un peu de laine. Donc, il faut le vérifier, c'est obligatoire. Alors, je lui dis, regardez ça, j'ouvre l'étiquette, et je lui montre, vous pouvez tous voir ici, 100% wool, composition, 100% wool. Wool, c'est de la laine, 100% de la laine. Il sourit comme ça, il me dit, il n'y a pas un gramme de laine là-dedans. Je lui dis, comment? Oui, je connais la marque, je travaille avec eux, c'est du chiquet. Il me dit, comment vous l'achetez? Je lui dis, je donne le prix. Il me dit, pour ce prix-là, c'est même pas le prix du tissu en laine. C'est de la fausse laine, je ne sais pas ce que c'est, du polyester, je ne sais pas ce que c'est. Ils mettent 100% laine. Ça veut dire qu'on ne peut pas compter sur l'étiquette. On ne peut pas compter sur le vendeur, on peut compter que sur un vrai bon vérificateur, comme on a expliqué dans le cours sur le chatness. Là, je suis en train d'expliquer plutôt les profondeurs et les dangers de cette chose-là. Le stapler, qui était le grand rabbin de la génération passée, tzadik, la pureté, l'ange, un ange sur terre. Il s'est marié avec qui? Il s'est marié avec la sœur du Chazon Ish, qui a proposé le chidour entre les deux, le Chazon Ish lui-même. Il a écrit à sa sœur, écoute, il y a un avocat extraordinaire, il s'appelle Rabbi Yaakov Israël, et il fait un chidour avec lui. Il propose au stapler, la sœur du Chazon Ish, il dit, ok, oui, bien, je suis d'accord. Donc lui étudie à Bialystok, et la sœur était dans un autre patelin, il fallait prendre la route, presque 24 heures de route en train. Bon, il prend le train. Il va s'asseoir dans le train, tout coup, il voit les chaises, il dit, c'est du tissu. Puis c'est un peu des tissus comme ça, moelleux. De quoi faire le tissu? Peut-être c'est du chatnez. C'est pas si. Même s'asseoir, si c'est moelleux, ça, c'est redondant comme ça, c'est interdit des rabananes. Il est resté debout 24 heures. On dit qu'il a fait le chasse en par cœur, il a répété tout le chasse, tout le Talmud, il a dit, on raconte comme ça, c'est un génie. Bon, il arrive au chidour, qu'est-ce qu'il fait? Bonjour madame. Il se réveille. Bon, d'accord. Bon. La sœur, elle lui a écrit au Chazon Ish, écoute, je veux bien, mais c'est pas un type normal. Il vient comme un clochard, il s'endort au milieu du chidour, elle n'a pas voulu. Chazon Ish, elle a insisté, et ils ont refait un chidour, et Baruch HaShem, de là est né Abraham Kanievski, d'accord, un des grandes générations aujourd'hui, c'est le fils du stapler, donc qui est issu d'une union entre la sœur du Chazon Ish et le stapler Rabbi Chaim Kalinsky, qui est un des grands grands de la génération. Donc je vous donne maintenant un exemple pour voir à quel point nous devons faire attention. Oui.
Dans ce cas-là, si on avait mis un truc en plastique.
Ça va, si on trouve un truc en plastique, quelque chose que tu ne profites pas de la chaleur du tissu, il n'y a aucun problème. J'ai dit auparavant que, au nom du Zohar, que celui qui s'habille avec du chatnez, alors il s'enveloppe du rouar, du souffle de l'assassinat originel de Caïn contre Abel. L'assassinat. C'est très symptomatique de voir que dans Shulchan Aruch, qui, je rappelle, n'est pas un livre de Moussar, les halachot de chatnez commence au Siman, au chapitre 298. Qui se dit en hébreu Retzar. Retzar, c'est assassinat. Et finit au chapitre 304, qui se dit, ça dit Shin Dalet. Shin Dalet, c'est démon, mais c'est aussi les rachetés votes, acrostiches, tout qu'on voit Shin Dalet toujours dans les écrits, c'est Shfirhut Damim, assassinat aussi, faire couler le sang. Dans Shulchan Aruch, il aurait pu prendre beaucoup d'autres halachot qui sont graves, Shabbat, pas manger de porc, et beaucoup d'halachot qui sont graves. Le Shulchan Aruch a choisi spécialement de mettre dans l'halachot qu'ils ont voisine de l'assassinat, dans les chapitres qui sont en valeur numérique, l'assassinat, le nom de l'assassinat, les lois de chatness. Parce que c'est un très grave interdit que les gens transgressent. Pourquoi? Pourquoi? Pour aucune bonne raison. T'as une côte de jambon, tu sens le fumet qui te passe comme ça, tu vas t'évanouir. Bon, tu sais, c'est interdit, Dieu, pardonne-moi, hop, tu dégustes. Tu peux dire, Dieu, bon, j'ai fait un péché, mais t'as vu un peu quelle épreuve tu m'as mis devant? T'as vu un peu cette côte de jambon comme ça? Je pouvais pas. Il y a une fille, rebelote, même trouve que les jambons. J'ai pas le droit, mais bon, j'ai un yetserara, d'accord. T'as au moins une circonstance atténuante. Peux-tu m'expliquer la circonstance atténuante que tu as de porter un habit qui a dedans un petit fil de lin? Sans ce morceau de lin, Dieu, je peux pas, je résiste pas. C'est crétin, ça tient pas la route. Donc tu transgresses un interdit sans aucune raison valable. Si ce n'est la paresse de l'amener, un vérificateur, ça coûte 2 sous, et le faire vérifier. Et chaque minute, tu retransgresses. C'est du Chilou Hachem, là. C'est quoi Chilou Hachem? C'est quoi profaner le nom de Dieu? Le Rambam donne 3 définitions. Une des définitions, c'est quand quelqu'un transgresse un péché sans aucune envie. Tu profanes le nom de Dieu. Ça veut dire quoi, profaner? Le nom de Dieu, c'est sacré. Sa parole est sacrée, signifie au-dessus de tout. C'est au-dessus de tout. J'ai des considérations dans ma vie, importantes, il y a une hiérarchie, mais il y a une chose qui doit être au-dessus de tout, Dieu. Si maintenant, pour aucune raison, tu prends la parole de Dieu, le désir de Dieu, t'en fais rien. L'exemple, tu as maintenant devant toi 2 morceaux, 2 packs de chocolat. Le même goût, le même prix, le même aspect. Un, il est taref, pas cacher, l'autre, il est cacher. Tu prends le taref. Pourquoi? Pour rien. Ça veut dire que pour toi, la parole de Dieu n'a aucune valeur. Alors, il n'y a pas 40 000 choses à faire. Il faut prendre tous ces habits, tous ceux qui sont en tout cas en laine ou en lin, ou qu'on a un doute, on les amène faire vérificateur, on pèse ce qu'il faut et on est tranquille. C'est marqué dans les livres de mystiques juifs que celui qui porte du chatnez pendant 40 jours, ses prières ne sont pas reçues. Notre force, c'est quoi, Am Israël? La bouche. Hakol kol Yaakov, la voix est celle de Yaakov. Nos spécialités, c'est la bouche. On n'a pas résisté pendant 4000 ans parce qu'on avait une grande armée. On n'a pas résisté maintenant parce qu'on était les meilleurs en technologie ou en stratégie militaire. On a résisté parce que, miraculeusement, Dieu nous a sauvés pendant 4000 ans. Grâce à quoi? Grâce à nos paroles, nos prières et notre Torah. La spécialité du peuple d'Israël, c'est marqué dans tous les livres, c'est notre bouche. Tolaat Yaakov. Yaakov est comparé, c'est très romantique, à un verre. Quelle est la force du verre? Ses poings, ses crocs, ses griffes, sa bouche, il mange. Une force dans sa bouche. Le peuple d'Israël est comparé à un ver qui, toute sa force, est dans sa bouche. C'est pour ça que l'impureté, le etc., veut nous faire pécher là-dedans. Parce qu'il sait que notre force est la bouche. Quelqu'un a des problèmes, il n'arrive pas même à faire tchouva, il n'arrive pas à avoir des enfants, il n'arrive pas à se trouver son mazal, il n'arrive pas à avoir une bonne parnassa. Il prie à Dieu. Il y a une sorte de pacte comme ça. La prière, ça marche. Il n'y a pas une prière qui ne revient pas vite. Si ce n'est pas toi, ça sera tes enfants, ça sera un coup, quelque chose. Ça marche. La prière, elle réussit. C'est un pacte entre Dieu. C'est marqué que les prières sont reçues. Dieu, une prière qui est faite, Dieu est proche de tous ceux qui l'appellent, les tous ceux qui l'appellent avec vérité. Tu fais une prière sincère à Dieu, c'est impossible que ça ne soit pas une action là-dedans. Une action chez Dieu. Alors comment ça que ça ne marche pas? Le Yetzer il veut empêcher les prières. Qu'est-ce qu'il fait? Tu veux porter un petit habit avec un petit fil de lin. Et là, tu portes un habit, tu portes l'habit du mal. Les prières ne passent plus. Dans le Masrat Psachim, c'est marqué que même si tu mets une mechitza, c'est un écran, une barrière de fer, un écran de fer, d'acier plombé, entre le peuple d'Israël et Dieu, les prières peuvent pourfendre cette barrière. Rien ne peut arrêter les prières. Que le petit fil de lin dans l'habit de laine, ou vice-versa. Alors, sur quoi il va mettre tout son poids? Là-dedans. Et il se déchaîne. Il y a des gens qui disent du porc, « Ah, c'est chalon !» Chatnez, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah! Il prend pour un maboule. En séminaire, je montre aux gens, « Voilà, j'ai un habit qui est sur ma gueule, cachère. » Il faut des habits cachères. C'est bien plus grave que le porc. Le porc, t'as mangé une fois, terminé. Là, chaque jour, tu le reportes dans tes prières. Tu pries à Dieu, tu veux être aidé. Tu es enveloppé du manteau du mal. Alors, c'est pas étonnant qu'on te dise un jour, Anoukhal, il va être déchiré au milieu du marché. On veut sauver ce pauvre type. Une histoire dernièrement ici à Jérusalem. Un couple a amené toute sa garde-robe vérifier le chatnez. Après 2-3 semaines, ils viennent reprendre leur garde-robe et le vérificateur, il voit que la dame, elle est très anxieuse. Alors, tout va très bien. tout va très bien, à part le manteau. Le manteau, il y avait un petit fil, bon, j'ai enlevé, maintenant ça va. Quoi, il y avait du châtaisse dans le manteau? Oui. Il la voit tout à coup, elle explose en sanglots. Elle pleure. Quoi, c'est pas si grave. Quoi. Parce qu'il y a... Enfin oui, c'est grave, mais c'est... il lui a cru qu'elle n'avait pas de quoi acheter un nouveau manteau, ils n'ont pas les moyens. Écoutez, si vous voulez, je peux vous aider peut-être un peu d'argent pour en trouver un manteau, tout ça. Non, c'est pas ça le problème. Alors, quoi le problème? Et ça fait 12 ans que nous sommes mariés, on n'a pas d'enfant. Et on prie, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? D'avoir les tzadikim, les vivants, on a assuré les tombes tzadikim qui sont morts, on a fait tous les soukoulottes possibles, imaginables, tout ce qui est possible, imaginable pour avoir des enfants, on n'a rien du tout. Je pleure à Dieu des heures tous les jours, teilim, à l'envers, à l'endroit, au kotel, 40 jours, tout ce que tu veux, on a fait. Pas d'enfant. Et maintenant, j'apprends que mon manteau, il a du chatnez. Celui qui porte du chatnez, 40 jours après qu'il l'a enlevé, on entend, ses prières ne sont pas reçues. Un an plus tard, le vérificateur a été invité pour la brit mila de leur gosse. Et moi, comment je reçois de l'air de gens? Mon mazal, ma parnassa, avoir des enfants. Pas un jour qui passe où j'ai pas des lettres comme ça. Presque pas. Alors, qu'est-ce que je réponds? Alors, après, il faut prier. Moi, je prie, eux, ils prient, et ça marche pas. Alors, vérifie ta garde-robe. Ah, mais ça coûte quand même 30 shekels par costume. De quoi on parle? Combien tu payes de souffrance? Mange du porc. Combien tu es prêt maintenant? Je te mets un plat. Je te dis, voilà, il y a une chance sur 100 que ce soit du porc. Écoute, voilà. Il y a 100 assiettes, on a la yeshiva, il y a 100 barourim, il y a 100 plats, il y a un que c'est du porc, on sait. Quelqu'un mange? Quelqu'un va manger? Je te paye 30 shekels, tu manges? Je te paye 1000 shekels, tu manges? Regardez comment... C'est dingue, hein? Le yetzer, il nous fait réfléchir tordu. Jamais on n'oserait manger une chose pareille. Mais porter une garde, peut-être la moitié des costumes, ils sont pas ok. On n'a aucun problème. Même si quelqu'un, il porte du chatnez beshogeg, sans faire exprès. Alors, on a une loi dans la Torah. Shogeg, involontaire, c'est moins grave que volontaire. Mais au niveau du fait que la prière n'est pas reçue, ça ne change rien. Ça, c'est déjà les dégâts. C'est comme si quelqu'un maintenant... Il vient chez moi à la maison, il y a un beau vase chinois, il prend le vase, jette par terre. Et je suis prêt à... Et oh! Qu'est-ce qu'il doit faire pour réparer? Et moi, il doit s'excuser. Excusez-moi. Excusez-moi, j'étais énervé. Bon, ok, je vous excuse. Il dit au revoir. Quoi au revoir? Je t'excuse, mais les pots cassés. Paye-moi le pot cassé. Maintenant, il vient chez moi, autre cas de figure, et sans faire exprès, boum, ah, excusez-moi, le vase chinois, je suis désolé. Désolé, bon, ok, ça va, je vous excuse, c'est pas grave, c'est pas fait exprès. Il dit au revoir. Quoi au revoir? Désolé, les pots cassés. Donc, si quelqu'un fait exprès de casser un vase, ou pas exprès, c'est-à-dire si quelqu'un fait exprès de transgresser un péché, ou pas exprès, dans tous les cas, il y a aussi les pots cassés, il y a les dégâts. Que la prière ne soit pas reçue, c'est partie des pots cassés. Ce sont les dégâts qui sont faits par cette mitzvah. C'est vrai que dans le ciel, tu as une avéra qui est moins grave, parce que tu n'as pas fait exprès, tu ne savais pas. Ou on t'avait dit, tu avais amené au vérificateur, on verra que les vérificateurs, très souvent, ils ne vérifient pas très bien. Ok, tu as fait ce que tu devais faire. Ce n'est pas de ta faute. Pas de ta faute, très bien. Mais le truc que tu es quand même habillé avec un habit qui empêche que les prières montent, alors, rien à faire. C'est marqué des trucs terribles. C'est marqué qu'il y a un ange qui fait monter les prières, qui les met sur la couronne de Dieu. Quand il voit une prière de quelqu'un qui porte du chatnez, alors la personne qui prie, elle, à ses yeux, est comme un idolâtre. C'est comme si maintenant on est en train de sacrifier un sacrifice à une idole. Cette prière d'idolâtrie. C'est terrible l'action que ça a. Il y a eu un cas, durant la Shoah, la yeshiva de Mir, a réussi à fuir la Pologne et s'est réfugié à Shanghai. Chassid Umot HaOlam, un pieux parmi les nations d'origine japonaise, c'était l'ambassadeur en Pologne de l'ambassade japonaise, eut pitié de tous ces juifs qui allaient incessamment sous peu être pris par les nazis. Alors sous régime déjà nazi, il y avait encore les premiers jours, on pouvait encore plus ou moins émigrer, la fille, vite, il a donné des tampons d'émigration pour toute la yeshiva de Mir, quelques centaines d'élèves. Lui reçoit des fax du Japon, arrête de faire de donner des visas d'immigration, arrête de donner. Malgré tout, il a continué. À la fin, il a dit au Bahreïn, écoutez, j'ai pas le temps, vous êtes trop. Prenez, il a donné les tampons, les passeports, allez. Et eux-mêmes, ils ont commencé à tamponner tous les passeports. Toute la Chine a pu s'enfuir, s'est réfugié, elle a traversé toute la Russie avec le Transsibérien, qui a été construit quelques années auparavant pour, j'imagine, cette Yeshiva. Et ils ont fait toute la guerre à Shanghai, dans des conditions très difficiles, bien sûr, mais rien à voir avec Auschwitz. Shanghai, c'était le paradis par rapport à Auschwitz. Raconte un élève à Shanghai, ils ont fait Kippour. Kippour, la Yeshiva Tmir à Shanghai, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ils savent qu'ils sont en guerre, ils savent que la Torah tient sur eux. C'est la seule Yeshiva qui a vraiment survécu d'Europe, qui a survécu à la Shoah. Pour finir, après, ils sont partis en Amérique. De là, ils sont venus aujourd'hui à Jérusalem. C'est la plus grande Yeshiva du monde. Il y a 4 à 5 000 élèves à Yeshiva Tmir, la plus grande Yeshiva du monde. Durant la Shoah, Kippour. Un élève raconte. Je prie. Et je sens qu'autour de moi, je vois la tête de mes amis comme des anges, en larmes, illuminés de lumière. Et moi, ça passe pas. Je prie, je passe pas. C'est pas possible. J'essaye. Ça passe pas. Et j'ai eu d'autres kippour où c'était extraordinaire. Un couple à kippour, quelqu'un un peu de sensibilité, il sent, ça passe. C'est pas possible. J'ai dit, mon manteau, peut-être une châtenaise. Mais j'ai vérifié. Elle a donné à vérifier. Bon, il se remet après de nouveau. Et sans ça, c'est l'idée de son manteau revient. Mais j'ai vérifié, donc qu'est-ce que tu te casses avec ça? Non, elle prie. Il n'arrive pas à prier. Bon, manteau, qu'est-ce qu'il a dit? Il a pris, il enlève son manteau. Il l'a mis de côté. Il revient prier. Et tout à coup, il sent, il décolle. Après, Yom Kippour a vérifié, il revient à vérifier son manteau. Ils ont trouvé du châtenais. Je voudrais la question que tu poses aussi. Il faut 40 jours. Il faut 40 jours. C'est marqué que si tu portes du châtenais, 40 jours, c'est pas reçu tes prières. Yom Kippour, ça nettoie tout. Faites tchouva sur Yom Kippour. Sur place, c'est passé. Sur place.
Après, oui. Je sais que vous avez déjà répondu, mais à partir de quel moment on transgresse l'interdit? Est-ce qu'il suffit de toucher? Ou est-ce qu'il faut. C'est quoi
Non, c'est uniquement quand on le porte en tant qu'habit qui nous chauffe, qui nous protège du froid, ou qui nous protège de la chaleur, ou quand on le met sur nous.
Quelqu'un qui va venir, qui met la main comme ça, s'il a un vêtement châtenais.
Pas de problème. Attends, s'il a un vêtement châtenais sur toi, puis toi, tu as le dos nu et ça te chauffe, alors c'est interdit déjà.
Et mettre un fil de laine et de vin ensemble, comme ça, c'est permis.
C'est permis.
Et derrière, il n'y avait pas au Mikdash, le Kohen
Gadol. Oh, très bien, très bonne question. Alors, toute l'union qui est interdite entre le din et le chesed, c'est l'origine de cette. Interdit, donc le lin et la laine, c'est une union qui est interdite, qui est faite dans un déséquilibre, dans un mensonge, dans une jalousie. Mais une union qui est sereine, qui est bonne, qui est rationnelle entre Chesed et Din, ça c'est la Kedusha en elle-même, c'est la sainteté. On dit que c'est le troisième fils qu'a eu Adam, après 130 ans, il a eu Chet. Chet, on dit de lui, Nishtata Olam, de lui, c'était la base. Le monde est reparti. Il a une base saine du monde sur laquelle le monde a pu repartir avec ses deux voies qui étaient en corrélation, en union harmonieuse. Il y a dans la Torah une union de din et chesed, c'est-à-dire aussi de lin et de laine, qui est harmonieuse, qui est dans la Kedusha. C'est quoi? L'endroit le plus saint qu'il puisse y avoir, c'est dans le temple. Le temple, les habits des Kohanim étaient faits en kilaim, étaient faits en mélange de lin et de laine. Et nous, à l'époque où on avait, dans les tzitzit, on avait le fil bleu, aujourd'hui on ne l'a pas, mais quand on avait le fil bleu, alors on pouvait mettre du lin sur un habit de laine. C'était permis d'attacher ensemble, d'avoir kilaim, d'avoir cette union-là dans l'habit de tzitzit. Parce que tzitzit, c'est l'habit de la kedusha. Donc, quand on a une union qui est dans le domaine négatif, c'est déséquilibré, c'est pour mensonge, est-ce que ça veut dire c'est interdit par Dieu, c'est châtenais normal, dans le monde chol, c'est interdit, c'est le pire qu'il puisse y avoir. Mais quand une union qui passe dans le domaine de la kedusha, de la sainteté, les habits de Dieu, alors là, c'est le tzitzit, c'est marqué que Dieu porte un tzitzit. Tu peux mettre un tzitzit de lin sur un habit de laine ou vice-versa. Que Dieu nous aide à vraiment échapper à ce fléau. Je suis convaincu que le Yetzer Hara, je vois moi-même, Je vois moi-même, arrête de faire ce cours-là, combien de SRH j'ai eu, j'ai remis, et aussi le cours qu'on a fait avec le Rav Assouline, combien ça a été remis, le minimum, ne remettez pas, le SRH se bat très très fort contre cet interdit-là. De façon naturelle, même je fais un cours comme ça, 2-3 jours après, la pression elle baisse de nouveau. Le porc, on est vacciné. Ce Yetzer Hara, il est terrible. Il nous fait des interdits graves à longueur de journée. Et surtout, il touche l'arme numéro 1 d'Israël dont on a tellement besoin. La parole. Très prochainement, le monde va faire boum. Comme vous le savez, je ne suis pas prophète, mais on a une bombe atomique. Dans l'air. Qu'est-ce qui pourra nous sauver? Surtout pas croire. Surtout pas croire machin ou machine ou ce truc ou cette armée ou l'autre armée ou le nouveau patent. Parce que si Dieu nous met dans cette situation, parce que c'est quand même Dieu qui gère le monde, il veut qu'enfin on l'appelle à lui. Maintenant, on va tous en train de l'appeler. Et parmi les gens qui l'appellent, il y en a qui sont habillés avec cet habit-là. Mais qui ont déjà acheté leur habit pour le Mashiach. Mais ils n'ont pas vérifié du Chatnez, leur habit du Mashiach. Quelle tête tu as comme Machar Hilari, puis tu as un habit de Chatnez, que tu as habillé avec l'habit du Sitra Achra, du mal.
Moi, je prends enragé.
Ça la fout mal en bon français. Mais c'est très, très mal.
Je serais très enragé.
Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Rapidement, aller chez les bons vrais vérificateurs et vérifier comme il se doit. Baruch Adonai. Voilà, même, mais...